Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
L'homme dont je vais vous raconter l'histoire se place bien au chaud au panthéon des tueurs en série américains. Danny Rowling. Figurez-vous que c'est pour ça qu'il a tué 8 personnes. Pour être une star, pour être une vedette parmi les serial killers. C'était l'ambition de sa vie. Il y est arrivé. Je débrieferai cette histoire qui remonte à 1990 avec Lionel Camus, auteur et youtubeur. Sa chaîne YouTube porte son nom. Il est passionné par les tueurs en série américains. Interview que vous écouterez dans un autre podcast. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, Boris Paczynski à la réalisation.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Je vous amène à Gainesville, en Floride. 80 000 habitants, siège de la 4e plus grande université des États-Unis. C'est une ville qui grouille d'étudiants. Nous sommes le dimanche 26 août 1990 et dans quelques jours, c'est la rentrée. Beaucoup d'étudiants sont déjà là. Les anciens qui ont leurs habitudes et les nouveaux, les yeux écarquillés, un peu perdus, qui cherchent leur marque. Aucun d'entre eux ne peut imaginer combien l'année universitaire qui commence sera effrayante et douloureuse. Christina Powell et Sonia Larson ont toutes les deux 17 ans. C'est leur première année à l'Université de Floride. Elles viennent d'aménager en colocation à la résidence Williamsburg. Et ça fait deux jours que dans leur petit duplex, le téléphone sonne dans le vide. Jamais personne ne répond. Deux jours que les parents de Christina essaient de joindre leur fille pour prendre des nouvelles. Normal, 17 ans, première année à la fac. Les parents sont toujours angoissés de laisser l'enfant s'envoler du nid. Au bout de deux jours, les parents sont tellement inquiets qu'ils débarquent à Gainesville. Ils vont tout droit à la résidence universitaire. Christina ! Christina, tu es là ? Christina, ouvre-moi, s'il te plaît. Christina ! Pas de réponse. Alors les parents, très inquiets, filent au bureau de police de Gainesville. Elle est très jeune, vous comprenez ? Elle n'a que 17 ans. Et ça n'est pas normal qu'elle ne nous réponde pas. Je vous en supplie, aidez-nous à rentrer dans son appartement. S'il vous plaît. Ça peut se faire ? C'est à quel endroit ? La résidence Williamsburg. Ok. Vous nous attendez ici, hein. Entendu ? Nous, on monte dans l'appartement. Je vous l'ai dit, c'est un duplex. Les policiers attaquent leur inspection par le premier étage. C'est là qu'est installée Sonia, la colocataire de Christine. Ils ouvrent la porte de sa chambre. Et ils la trouvent sur le lit, baignant dans son sang. Nue, le corps lardé de coups de couteau, les cuisses et les jambes écartées. Si tu veux mon avis, elle a été violée, cette fille. Avant ou après sa mort. On verra bien. Ce policier a tort. L'autopsie révélera qu'elle n'a pas été violée. Et après, ils prennent l'escalier qui mène à la chambre de la colocataire de Sonia, Christina Powell. Ses parents attendent en bas. Morte, elle aussi. Couchée dans la même position, sur le dos, les jambes écartées. Et elle a été violée. Mais le plus terrible de cette scène de crime, c'est ce qu'on lui a fait au sein. On lui a sectionné les seins, manifestement au couteau. Tchac, tchac, un barbare. « D'après nos légistes, les deux filles ont été tuées il y a 48 heures environ. Et pas avec un couteau de cuisine. Regarde la profondeur des plaies et de leur forme très caractéristique. Je pense que l'assassin a utilisé un couteau militaire, messieurs. Je dirais un poignard de type Kaba. Un poignard qui est utilisé par la marine américaine. Il est redoutable. J'ai aussi quelque chose qui va vous intéresser. Concernant la mutilation des seins de Mademoiselle Poré. L'opération, sachez-le, a été réalisée post-mortem. Oui, vous avez bien compris. On lui a sectionné les seins après la mort. Les policiers ont trouvé des traces d'effraction sur la porte de service. C'est sans doute par là qu'il est passé. Et le légiste a relevé des empreintes qui pourraient contenir de l'ADN sur le cadavre de Christina Powell. On est en 1990. C'est une technique nouvelle et pleine de promesses. On verra si elle peut aider à résoudre cette affaire. À part ça, les corps ont visiblement été nettoyés. Et autour, manifestement, on a fait le ménage. Bien, messieurs, nous sommes d'accord que nous pouvons écarter d'emblée la piste du cambriolage qui dégénère. La mutilation opérée sur l'un des cadavres, le viol de l'une des deux, et ajouterais-je la position dans laquelle on les a retrouvés, indique qu'on a affaire à un très grand pervers. Pas un voleur. Celui qui est entré dans cet appartement savait ce qu'il voulait. Et il l'a fait. Et franchement, rien nous dit qu'il va pas le refaire. Il est possiblement encore à Gainesville. Et donc, première décision, on va multiplier les patrouilles sur le campus, placer des policiers un peu partout. Il faut rassurer les étudiants qui n'ont pas encore fait leur rentrée. Et ensuite, on se met à chercher des témoins. Est-ce que quelqu'un a vu cet homme rôder dans le coin? Malheureusement, la réponse est non. Il fallait s'y attendre. C'est une grosse affaire. Et donc la police de Gainesville voit débarquer le FBI. Avec dans ses bagages les inévitables profilers. Aux États-Unis, on ne sait pas s'en passer. Les gars du FBI sont en train de s'installer dans leur chambre d'hôtel quand tombe une sale nouvelle.
Nous avons une jeune fille de 18 ans qui a disparu à Alachua. Personne n'a plus de nouvelles d'elle depuis le 25 août.
25 août, vous dites? C'est-à-dire au même moment que Christina Powell et Sonia Larson.
Exactement. La fille s'appelle Krista Hoyt. Elle est étudiante et réceptionniste dans un hôtel et elle ne s'est pas présentée à son travail. Avec ce qui s'est passé, je voulais vous prévenir, quoi. On va aller chez elle. On vous tient au courant.
Alachua, c'est à quelques kilomètres de Gainesville. Ils y vont. Ils sonnent à la porte, pas de réponse. Alors ils font le tour de la maison et ils découvrent qu'une baie vitrée a été forcée. L'adjoint du shérif passe une tête. Elle est là, elle est sur le lit, morte, morte et décapitée. Les policiers se disent, le tueur est peut-être encore dans la maison. Alors ils appellent du renfort et ils entrent. Personne. Et le cadavre? Eh bien, le cadavre, il est sur le dos, au pied du lit. On lui a tranché la tête et les seins. Et la tête est posée sur une étagère juste en face. Comme si elle regardait ce film d'horreur. Peut-être un sacré pervers pour faire ça. Décapiter une femme et aller poser sa tête sur une étagère. Pour mettre en scène son meurtre, comme ça. Pour votre information, Krista Hoyt a été tuée d'un coup de poignard dans le dos. Sa décapitation a eu lieu post-mortem. Et la découpe des seins aussi. Et par ailleurs, elle a été violée. Trois victimes, trois meurtres mis en scène. La tête sur l'étagère, La découpe soigneuse des seins, la nudité, les jambes écartées et le même poignard militaire. On a là tous les marqueurs d'un tueur en série. Il en a tué 3. Il ne faut pas qu'il en tue 4. Bon, pour commencer, vous avez cherché si les 3 filles se connaissaient, si elles venaient de la même ville, si elles fréquentaient les mêmes endroits, si elles avaient les mêmes goûts. Je veux savoir si quelque chose les relie. Malheureusement, la réponse est non. Les 3 filles n'ont rien en commun. Juste le fait d'être toutes les 3 étudiantes. À part ça, rien ne les relie. Et c'est là que les profilers rentrent en action. À eux de tenter de dresser le portrait du coupable. Vu le peu d'indices, ils ne sont pas sortis de l'auberge. Je crains qu'une fois de plus, ils ne nous déçoivent. Vous ne croyez pas vraiment au profiler, Rondin ? C'est ça ? Non. Non, mais c'est pas une question de croyance. C'est juste que je n'en ai jamais vu un seul résoudre une affaire. Ah. En revanche, j'en ai vu un paquet se planter. Et parmi les os à ronger par les devins du crime en ce début d'enquête, le couteau, le poignard militaire. Pourquoi utilise-t-il un couteau de ce type ? Bon courage, camarade profiler. Les profilers moulinent les rares éléments à leur disposition et ils en sortent un premier profil. C'est un homme blanc, entre 25 et 35 ans. Un homme parfaitement organisé, je dirais même méthodique. Il a planifié ses crimes. Un exemple. Les 3 filles ont été menottées avec du ruban adhésif. Et avant de partir, il leur a enlevé le ruban adhésif. Et il est reparti avec le rouleau. Il savait qu'en utilisant le ruban adhésif, il risquait de laisser ses empreintes. Donc c'est possiblement quelqu'un qui connaît les méthodes d'investigation de la police. Ça s'appelle enfiler des paires. Mais il paraît que c'est une science. Autant vous dire qu'après le bis repetita, les gens commencent à avoir très peur. Il est là. Il rôde. Désormais, il y a un policier en uniforme à chaque coin de rue. Mais ça ne réussit pas à rassurer les étudiantes. Désormais, elles ne se déplacent qu'en groupe, avec des garçons. Et si elles habitent seules, elles demandent à une copine de venir dormir chez elles. Certaines décident même de quitter Gainesville, de changer d'université. Et tant pis si la nouvelle est moins bonne. Au moins, elles n'auront plus peur.
Retrouvez Christophe Andelatte pour la suite de votre récit dans un autre podcast déjà disponible sur votre plateforme.